vous emmerdez pendant le confinement? Tant mieux, nous aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est tous dit, et si on déterrait Constantine le film avec Keanu Reeves? Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce petit podcast des familles. Alors préparez-vous, parce qu'il va y avoir du sport. Hein. Si vous pensez que le film a bien vieilli, eh ben vous avez tort. Et ça rime. C'est parti. Et pour m'accompagner dans ce podcast, je suis avec Watchful.
Le mec, il s'est improvisé présentateur, mais vas-y, bah franchement, tu t'en sors trop bien, vas-y.
Allez, Watchful, j'ai dit bonjour, ouais, Watchful.
Salut.
Sledgy.
Yes, salut.
Et James.
Salut.
Qui nous fait le plaisir. Alors, Constantine, le film, alors, que dire?
On va le déterrer, mais pour le réenterrer. Hein.
C'était quand la dernière fois que vous l'aviez vu, Lou? James, toi, tu l'as vu en 2005, apparemment,
moi,
pour sa sortie?
Je l'ai vu à sa sortie au cinéma et j'ai dû le voir quelques temps après quand il a dû être disponible en DVD ou un truc comme ça pour le montrer un peu à d'autres, parce que à cette époque-là, je l'avais trouvé sympa, mais je pense que déjà, je connaissais pas même si je connaissais pas le personnage, j'ai trouvé le film plutôt sympa dans l'ensemble à cette époque-là et je pense que j'aurais pas dû le revoir parce que là, je me suis fait du mal.
Je l'ai dit, pareil.
Ça fait bien 10 ans que je l'ai pas vu.
Ouais, on doit être pareil.
Ouais, voilà, vu en DVD un peu plus tard que sa sortie, je pense vers 2008-2009 comme ça, et je l'ai plus revu depuis. Et je l'ai revu pour cette occasion magnifique. Et
il était sur Netflix. Il était sur Netflix.
C'est ça. Il est toujours sur Netflix.
Voilà. Donc vous pouvez y aller si vous emmerdez. Et toi, Watch, ça fait combien de temps?
Moi, je l'ai découvert très très tard. En fait, je suis rentré sur chez DC Planet, je l'avais jamais vu. Et je l'ai vu il y a 2 ans, 2 ou 3 ans.
Tu n'as pas ce souvenir des années 2000 où les goûts étaient un peu différents?
Ah non, mais tu le sens carrément en fait quand tu l'as jamais vu et que tu te dis tiens, je vais me replonger dans un vieux film des années 2000, So Dark avec un 4 à la place du A, tu vois.
Bah,
et
tu vois Underworld, Van
voilà,
Helsing, tout le monde est là, hein, tout le monde est là,
exactement,
Blade.
Et c'est exactement le même délire, mais quand même, on n'est quand même pas à un niveau de Van Helsing assez dégueulasse. Ça va, on n'a pas de créatures en 3D qui foncent vers l'écran, mais que tu sens tellement que ça a été rajouté avec des surfaces complètement lisses. Les démons, tu vois, ils sont dégueulasses de toute manière, mais ils essayent quand même de cacher. Donc pour du 2004, ça marche plutôt bien les effets spéciaux.
C'est vrai que c'est pas si dégueulasse. Alors Constantine.
Pour du 2004. Hein.
Ah oui, oui, ouais. Pour du 2004. Hein, attention.
Ouais, 2004-2005, c'est sorti en France.
De quoi il parle ce film? Est-ce que quelqu'un veut essayer nous le résumer ou
je peux faire une fiche technique réalisation.
Oh bah vas-y,
Watch.
La fiche technique.
Alors, en fait, je suis arrivé sur le film et je me suis dit. Mais qui a réalisé ce truc? Parce que bon, le rôle principal, on est au courant, c'est Keanu Reeves. J'avais pas tilté la première fois que j'avais vu. Ouais, en 2 ans, j'ai remarqué que le gamin, c'était Shia LaBeouf.
Ouais. Et oui, dans ses premiers rôles. Ce qui est d'ailleurs étrange parce que ils le font jouer Chaz. Et Chaz, il est censé avoir quand même plus ou moins le même âge que John, quoi. Et du coup, là, t'as cette espèce de gamin parce que Shia LaBeouf, déjà, il fait pas vieux, mais là, on dirait qu'il a 15 ans.
Je suis carrément d'accord. Et moi, du coup, ça m'a fait penser au gamin qui conduit le taxi dans le Spirit. Donc, j'ai pas trouvé ça complètement con en soi. Mais c'est pas encore ça qui m'a fait vraiment, vraiment tilter. C'est la réalisation. C'est un premier film. C'est le premier film de Francis Lawrence. Et je comprends pas comment on a pu confier un projet aussi. Enfin, tu sens que c'est quand même un projet secondaire. Ils y croyaient pas vraiment. Et juste après ça, il a fait Je suis une légende et il a réalisé ensuite les Hunger Games. Quand tu vois la progression du type, tu te dis waouh, en fait, il a jamais vraiment quitté cet esprit-là, en fait.
Je pense que c'est un yes man.
Oui,
c'est un gars qui a généré beaucoup d'argent parce qu'il est avant, il faisait si je me trompe pas, c'est un gars qui fait des clips musicaux à la base.
Ouais. Et pas c'est n'importe quel. Honnêtement, il a fait du clip connu, tu vois, pour l'époque.
Ouais. Il bossait avec les grands, Justin Timberlake. Alors maintenant, Justin Timberlake, c'est plus ça, mais à l'époque, il était au top, tu vois.
Il a fait Bad Romance avec Lady Gaga récemment.
Il a fait le clip où Britney Spears devient sexy pour de vrai, I'm a Slave for You.
J'ai cru que tu allais me parler de Womanizer.
non. Quand j'étais petit, il m'avait beaucoup marqué ce clip.
Et c'est en partie.
non mais elle met le string au-dessus du pantalon. Ça, déjà, c'est un concept.
Allez, on sent déjà qu'on ne s'éloignera pas du sujet aujourd'hui.
Et pour rester sur... Alors, par contre, je ne connaissais pas son histoire, son passé avec la réalisation de clips, etc. Mais du coup, j'ai déniché un petit truc, c'est qu'il allait réaliser un film Sergent Rock dans les années 2010.
Ah.
Et ça n'a jamais vu le jour, et je me dis peut-être qu'il vaut mieux que ça n'ait jamais vu le jour comme ça.
Mais en fait, le gars fait des clips musicaux, il arrive à avoir un peu de, on va dire, un peu de notoriété. Du coup, comme il a bossé avec pas mal de grands noms de la musique, etc., on lui dit écoute, vas-y, charge-toi du film, parce que comme James l'a dit, c'est un peu un yes man. Il se retrouve avec Constantine, ça marche pas trop mal. On lui file Je suis une légende qui lui cartonne. Et ensuite, il fait. En fait, il est resté sur le projet Hunger Games. À savoir qu'en fait, j'ai cherché, mais genre, il a aucun lien familial avec Jennifer Lawrence, qui est la star des Hunger Games. Malgré son nom, ils n'ont pas le lien.
J'ai même pas fait la réflexion.
Non, mais j'ai cherché, je me suis dit bon.
J'ai vu tous ses films en plus. Pour l'anecdote, j'ai tout vu. Je n'ai même pas cherché à les voir, je les ai tous vus. Et franchement, non, le type, quand on voit ce qu'il a fait après. Enfin, moi, les Hunger Games, autant le premier, il y avait un petit quelque chose qui rappelait le Battle Royale, qui était un peu fun, mais sans plus. Autant les suivants, c'était vraiment de la merde. Hein. J'ai saigné en regardant le dernier.
Les bouquins sont pas mal, en vrai. Hein. Enfin, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je les avais lus et je trouvais ça assez agréable, l'ensemble.
Je pense que les livres sont bien, mais l'histoire, elle est pétée, puisqu'elle tout tourne autour de Jennifer Lawrence et ils ont pas réussi à, on va dire, je sais pas comment dire, enfin...
Rendre moche les autres personnes. Ah.
Ouais, mais rendre crédible, en fait. Elle est pas crédible, elle, déjà, dans ce rôle-là. Et les autres personnages sont pas du tout attachants.
Le héros s'appelle Pita, quoi. C'est le nom d'un plat, tu vois. Déjà, à la base...
Tu sais que le mec, il arrive dans le Battle Royale, il se fait bouffer, quoi.
Voilà, c'est une prédestination. Donc, quelque part, ses parents voulaient le sacrifier, là. du coup, Watch, suite de la fiche technique.
Je crois que je vais m'arrêter là parce que je voulais surtout m'arrêter sur la réalisation parce que ça m'avait vraiment surpris l'idée que ce soit un premier film et la progression du réalisateur qui en fait reflète bien l'idée de ce Constantine.
Ouais. Alors,
je pense quand même que le film a été vraiment, enfin tout a été misé sur. Alors on dit Keanu, hein, parce que c'est Aurélien. Keanu Reeves. Et je pense que comme il était vraiment dans son essor à fond après les Matrix, je pense qu'ils se sont dit, on le fout lui, on met n'importe qui à la réalisation, le truc il va marcher. Je pense qu'il a dû fonctionner. Hein.
Honnêtement, il y avait de l'espoir, tu vois, pour un mec qui a réalisé des clips quand même, qui ont marqué une certaine génération, en l'occurrence la mienne.
Il a fait 200 millions pour un budget de 100 millions.
Ouais.
C'est pas un succès de fou, mais c'est pas mal. Hein. Ouais,
c'est pas.
Si on reste dans l'équipe technique, il faut quand même rajouter que dans les producteurs, il y a deux personnes qu'on connaît bien.
Il y a
je sais pas comment ça se prononce vraiment, Michael Uslan et Akiva Goldsman. Donc, c'est des mecs qui ont fait.
Lorenzo Di Bonaventura aussi.
Akiva Goldsman, hein, Batman Forever, Batman et Robin.
Mais ils ont quand même fait venir Garth Ennis et Delano un peu pour aider au scénar. Donc, quand même.
Coup, j'ai eu un doute face à ça parce que je me suis demandé s'il n'y avait pas un, j'aimerais dire, un scénariste de cinéma.
Ah, pour moi, il y a un scénariste de cinéma parce qu'ils n'ont pas pensé ça.
Que...
Ils n'ont pas pensé ça.
C'est sûr que ça ne pouvait pas être vraiment que de eux deux qui est venu ce truc qui a été le film. Mais je n'ai pas trouvé d'autres noms. Donc, je ne sais pas si vous avez...
D'après Wikipédia, il y a deux noms. Alors, ils n'ont pas de page Wikipédia, ces deux mecs. Ils s'appellent Kevin Broadbin et Frank A. Capello.
Ok.
A plus loin Capello.
Okay.
Comme quoi, éviter Wikipédia, ça ne réussit pas toujours.
Ils n'ont pas de page, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait grand-chose après. Quoi.
Et quel scénario Alors, est-ce que quelqu'un se sent de le résumé ou je tente quelque chose?
Je peux essayer un truc.
Le résumé Netflix est très drôle.
Vas-y pour
tu
le...
l'as ou pas?
Parce que je l'ai pas dessus, je l'avais lu vite fait. Ils disent, c'est un détective privé, je crois, qui aide pour une enquête occulte, un truc comme ça, c'est... C'est très
ça n'a rien à voir en fait.
Ça n'a rien à voir.
Non, mais en gros, pour résumer, t'as, qu'on s'appelle, t'as Rachel Weisz qui fait un triple saut périlleux arrière depuis le cinquième étage à travers une baie vitrée. elle est retrouvée morte. Alors bon, avec James, on a eu quand même une réflexion avant, c'est que dans le cadavre, il est totalement clean pour une meuf qui a fait un saut carpé depuis de 30 mètres.
Bah ouais.
Mais pourquoi pas. Et en fait, t'apprends que cette fille, cette femme avait une sœur. Une sœur jumelle qui est flic et qui va essayer d'enquêter parce qu'elle, pour elle, sa sœur a pas pu se suicider. Et gravite autour de cette histoire John Constantine qui, comme dans le run Gartenis, a un cancer, va crever et est destiné à aller en enfer pour avoir essayé de se buter auparavant. Et les deux vont progresser, en rencontrant divers, on va dire, créatures, démons, en fait, en général, jusqu'à se rendre compte que, en fait, les méchants veulent la lance de Longinus, si je comprends bien.
Ouais.
Aucune référence à de BVS, hein, même si je sais que BVS a tout inventé. En fait, avec cette lance, ils veulent ressusciter, comment il s'appelle le méchant ? Un grand démon.
Ça commence par un M, je sais plus.
Manon,
et c'est le fils de Satan.
Voilà, et ils veulent le ressusciter lui pour foutre le bordel, et voilà, en gros, pour résumer. Hein. Et on apprend finalement que en fait, il y a un traître parmi les supposés gentils, qui est Sledgy ? Qui est le traître ? C'est Gabriel.
Comment elle s'appelle? C'est David Bowie.
Ouais, c'est vrai qu'elle ressemble à David Bowie.
La première fois que j'ai vu cette actrice, c'était dans ce film-là, donc en 2005. Je ne l'avais jamais vue avant. Et comme il l'appelle Gabriel, sur le coup, j'ai bugué. Je me suis demandé si ce n'était pas un homme.
Je trouve qu'elle elle joue pas mal. Hein. Je trouve que le personnage passe bien. Hein.
Elle fait le taf. Elle a toujours fait le taf. Mais c'est juste sur le coup, j'ai bugué sur ce personnage. Et en fait, tu sens à 10 km qu'elle pue. Je sens que c'est le méchant, elle n'est pas nette. Ouais. Mais après, y a tout le film tourne autour de cette histoire de tu te suicides, donc pour les catholiques, tu vas en enfer. Tout le film, ça parle de ça. Et tout le film considère que si tu t'es suicidé, t'es qu'une pauvre merde, donc elle le traite mal parce qu'il s'est suicidé, et donc tu as tout le truc autour du suicide, tout le temps. Ouais. Et c'est vrai, j'ai trouvé ça un petit peu faux, en fait.
Mais comme on a vu, le suicide peut être positif. Hein. C'est ce que nous apprend à la fin du film.
Oui, c'est que... tout à fait. Si tu le fais pour une bonne raison, visiblement, la sœur avait visiblement pas une bonne raison, d'après Dieu. Alors que
là, ça va.
C'était la même raison, à la base, hein, si elle s'est suicidée, c'était pas pour aider. Hein. Mais bon, à la fin, ça fonctionne, mais pas au début.
Parce que sinon, ça marche pas, le film. Okay.
Bon, du coup, scénaristiquement, vous en avez pensé quoi, James?
Le départ, c'est pas trop mal. Et en fait, c'est trop simple. Comme je dis, en fait, tout est tellement basé sur ces histoires de suicide que tout le reste devient trop, trop facile. Les gentils qui aident... Constantine, tous ceux qui bossent avec lui, finissent par en prendre plein la gueule. Et on dirait qu'on a écrit ça derrière chaque ligne de chaque personnage qui accompagne Constantine. C'est « dis ça et de toute façon, tu vas crever. T'entends quelque chose, de toute façon, ton personnage, il sait qu'il va crever. » Voilà, c'est ça. Et chaque personnage sait qu'il va crever, on dirait. Il n'essaie même pas de s'en sortir ou quoi que ce soit. Ils réagissent toujours comme des cons, comme s'ils débarquaient, alors qu'ils sont censés être des experts ou avoir l'habitude, puis qu'ils aident Constantine depuis toujours.
Moi, ça me l'a moins fait, mais par contre, ça me l'a fait sur la scène où, quand ils vont affronter les sortes de démons dans la tour, là, celui qui est un playboy milliardaire, je sais pas quoi, à un moment donné, il file une sorte de talisman à Rachel Weisz. Elle se déshabille et le jette dans la voiture. Elle avait un truc à faire, tu vois. T'avais un truc à faire.
Non, mais c'est pire que tout. C'est qu'en fait, quand elle a enlevé sa veste pour on ne sait quelle raison, le collier est parti avec. Quand t'enlèves une veste, le collier part avec.
En plus, quand elle part rejoindre Constantine, mais ça sert absolument à rien. Genre, à part qu'elle soit là dans la scène, mais je veux dire, elle fait rien.
C'est du scénario pour la suite, parce qu'elle a besoin d'être là-haut pour le scénario.
C'est ça, c'est que des choix de « Ah, je vais faire ça, pourquoi tu fais ça ?» Parce que sinon, il ne peut pas se passer autre chose.
Mais surtout, c'est drôle, parce que la scène, c'est qu'elle dit un truc du genre « Reste dans la voiture, allez mec, gna 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 ». Donc elle fait sa remarque comme si c'était genre, elle était féministe. Genre « Je suis féministe, je me bouge, je suis forte ». Et quand elle arrive au moment, en fait, bah, elle s'est comportée comme une conne, et en gros, elle donne raison au mec de lui avoir dit de rester.
Bah, de en toute fait, façon, c'est typique du personnage féminin
bah, des années 2000.
Bidon, quoi, mal écrit.
Bah, d'ailleurs, là, on peut en parler, il y a une tension sexuelle dans le film qui est ultra chelou, parce que, en fait, ça arrive... non, mais ça arrive quatre fois dans le film. Genre, quatre fois dans le film, il y a une scène où il se regarde en mode on va s'embrasser, et trois fois, il lui met un énorme râteau. Genre, dans la voiture, à un moment donné, il se regarde et il tourne la tête. À un moment donné, elle est en train de se déhabiller dans la... Je sais pas, parce que c'est la salle de bain, etc.
Ah oui, salle de
il
bain.
Regarde, il tourne les talons, il se casse, tu vois. Il se tourne les talons, il se casse. Mais il fait trois fois le coup, tu vois. Et je t'en... Mais... Ils veulent en venir
attends,
où, là
la scène dans la salle de bain, il la regarde tellement comme un steak aussi, c'est terrible.
Ouais, mais elle lui dit, je garde mes vêtements. Et là, il la regarde, on attend, et elle fait, je réfléchis.
Ouais.
Non, c'est bon, vous pouvez les garder.
Mais, c'était un peu gênant.
Mais c'est quoi, ce
c'était ultra gênant.
Et c'est comme ça tout le temps, en fait.
Ouais. Le film essaye d'être drôle, des fois, comme ça.
Mais du coup, à la fin, tu vois, parce que bon, le film classique, même en général, mais le film classique des années 2000, à la fin, il s'embrasse, tu vois, sur un toit, etc. Ce qui arrive.
Attends, mais... sur le toit où sa sœur s'est suicidée, ce qui n'est pas
oui.
Du tout, tu vois.
Ouais, mais...
il s'embrasse pas, à la fin.
Mais toi, t'as pas ce côté... Si, il s'embrasse, je crois. Non ?
Non ? Non, même
non
pas.
Oui, quand il se regarde.
Non, il
de
s'embrasse
nouveau,
pas, il se regarde et en gros, il lui dit.
Un truc comme ça. Et puis, c'est tout.
Après, il fait le renégat, tu vois. Il fait genre, ouais, moi j'ai d'autres missions.
Pour moi, il l'a pécho à la fin, tu vois, plus ou moins.
Non, en fait, justement, il lui dit qu'ils se reverront jamais parce qu'en fait, en fait s'il se revoit, bah, c'est qu'il se passera quelque chose de dangereux, etc.
Et il lui file le truc, il lui dit, casse-toi maintenant, allez, barre-toi. Oui, parce que ça aussi, il faut en parler. Genre la meuf non mais attends la meuf depuis le début du film c'est un sac de frappe en fait genre à chaque fois elle se fait bolosse etc non mais attends réfléchis juste genre depuis le début du film elle se fait bolosse à chaque fois elle se fait agresser si John il débarque pas alors des fois c'est sa faute tu vois genre quand elle se pointe pour affronter le milliardaire là non c'est super con mais généralement c'est John qui la sauve et là t'as un item qui est, parce que la révélation finale, c'est que autant les démons, ils veulent la lance, autant finalement, il y a une partie des anges, la fronde menée par Gabriel, qui sont aussi là pour foutre des coups de pute. Mmh. Et elle a aucune formation dans les arts obscurs, ni rien, et il lui file l'item que l'enfer et le paradis veulent, et il lui donne, tu vois, comme ça, il lui dit, bah tiens, prends-la, et cache-la. Mais c'est la mettre en danger... Enfin, elle va se faire buter. Je veux dire, je sais pas, mais
je pense qu'il doit, il doit manquer quelque chose dans le scénario qui sous-entend que du fait qu'elle soit médium, elle doit pouvoir se cacher. Ça doit être un peu comme ça,
mais après, mais même,
bah non, en fait, parce que même pas, il lui dit même quand vous pourrez les voir, ils pourront vous voir aussi.
Voilà.
Donc, du coup, oui, effectivement, elle est cuite.
Mais c'est ça. Pour, à la fin, il la condamne. Tu vois, je sais pas. Oui. C'est comme si t'avais des tueurs. Enfin, tout le film, imaginons que tu changes le contexte, tu mets pas le côté magique, etc. Tu dis que pendant le film, il y a des tueurs qui poursuivent une meuf parce que, je sais pas, elle a un diamant. Et elle a un garde du corps. Et à la fin, le garde du corps, il prend le diamant, il lui donne et lui dit, bah tiens, démerde-toi. Ben non, en fait, elle va se faire charcler. Genre, au premier coin de rue, il y a un démon qui lui tombe dessus, terminado.
Bah, c'est ça.
Donc, c'est quand même bon. Donc, c'est quand même assez, assez particulier. Mais sinon, le scénar, Sledge, toi, ton avis.
Bah, déjà, le film, il se lance au bout de 1h20, quoi.
Oui.
Avant, ils parlent beaucoup, ils font des trucs qui ne servent pas à grand-chose, mais avant qu'elle se fasse enlever et qu'ils commencent à avoir un peu de tension, quoi. Bah, ils discutent, ils tentent des trucs, c'est un peu chiant. Donc, c'est une bonne heure où tu te fais chier, quoi. Après,
en fait, c'est écrit comme un film d'horreur à moitié le début.
Ouais.
On le voit surtout genre la scène où elle regarde elle était ouf. Quand elle regarde la vidéo de surveillance et qu'elle entend sa sœur dire Constantine, et elle regarde, finalement la sœur le dit plus. Et là tout d'un coup, elle a un téléphone portable qui sonne, un fax qui sonne, un autre téléphone qu'on voit pas mais qui sonne. Et là, je me dis déjà, elle a beaucoup de téléphones dans une petite pièce. Et là, elle se retourne. Et je me dis, pourquoi elle se retourne? Elle a encore des téléphones derrière elle? Non, elle nous regarde. Et ça.
Non, et puis après, ça ressonne encore plus. Et là, je me dis, mais merde, mais combien elle en a?
Voilà, mais c'est surtout que. Enfin, j'ai pas compris. Enfin, dans un film d'horreur, je peux comprendre. Mais encore, enfin, dans un mauvais film d'horreur, j'aurais compris ça parce que j'ai pas compris. La scène était vraiment ridicule. Je veux dire, elle se retourne pourquoi? Il y aurait eu écrit Constantine derrière son dos, j'aurais compris. Il y aurait eu quelque chose, mais il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Elle s'est retournée pour rien regarder. Il n'y avait même pas un téléphone à regarder, il n'y avait rien. Je ne sais pas. Et tout le début du film, c'est vraiment le film d'horreur où on te met en place. Genre, lui, il va crever parce qu'il a un cancer. Elle mène son enquête. Et lui, il se fait attaquer. Il dit à tout le monde, les méchants sont là. Tout le monde lui dit, c'est pas vrai, il y a l'entente. C'est pas vrai, il y a l'entente. Et c'est ça pendant presque une heure, en fait.
Mais bon, ouais. Pour moi, c'est même pas un film d'horreur. Hein, parce que, genre, il n'y a aucun élément qui est... Il y a des trucs qui sont, on va dire, qui appartiennent à l'univers horrifique. Mais il n'y a rien dans la mise en scène, etc., qui te... Toutes les menaces, à part le coup où il se fait attaquer par cette sorte de... Je ne sais pas ce que c'est, une truc d'insecte, là. Ouais, un essaim. Sinon, il n'y a rien qui le prend en traître. C'est même lui qui va les défoncer. Dans un film d'horreur, généralement, c'est le héros, il se barre. Non, là, c'est lui qui se pointe et à chaque fois, il les démonte. Genre, il n'y a jamais de moment...
Le côté film d'horreur, c'est avec elle.
Pour les singes, je me demande, c'est pas un personnage de l'univers de Constantine, ça?
Alors, si, on a pu voir des trucs avec des mouches à un moment donné, mais non, en vérité, ce qui a repris l'univers de Constantine, c'est surtout les principaux persos. Donc, t'as Gabriel, qui est un peu...
Papa Midnight.
Qui est fait Papa Midnight, ouais. Mais qui est, dont la caractérisation est un peu étrange, parce que il est... Finalement, c'est son pote. Enfin là, clairement, dans le film, à part au début, parce que Constantine il commence à essayer de se battre dans son club privé là. Mais sinon, Pop Midnight, il l'aide depuis le début quand il va lui dire, quand il se pointe, il lui dit, il va me chercher la chaise. Je me suis dit bon, ça va dégénérer. En fait non. Enfin, Pop, il prend la chaise, il lui amène, il dit bon, je vais t'aider, etc. Tu vois, t'es sûr que tu veux faire ça? Et ensuite, t'as Chaz qui lui est un peu étrange, censé être peut-être plus vieil ami de John, et il a 15 ans, quoi.
C'est ça.
Alors,
ça,
il en a plus que ça, puisqu'il a mon âge, ce jeune acteur.
Certes, mais t'as vu la gueule.
Du coup, il a l'âge d'être son fils à l'autre. Ils ont 20 ans d'écart quasiment.
Ouais, c'est ça.
18 ans d'écart pour être exact, même.
Donc, il agit de toute façon. Enfin, je suis désolé, Chaz, il agit comme un gars qui a entre 15 et 20 ans, quoi.
Comme tous les films dans lesquels il joue, lui.
Ouais, bah après,
c'est-à-dire
qu'on
lui a demandé de faire... Lui aussi, il avait le vent en poupe et on lui a dit de faire comme d'hab, et il a fait comme d'hab, c'est-à-dire de la merde. Et franchement, c'est juste fatigant. Et je me demande même si le fait qu'il soit jeune, c'est pas justement pour rendre la chute du personnage plus dramatique.
Oui, voilà, c'est ça, c'est le sidekick qu'on sacrifie. C'est un peu le faire valoir.
D'ailleurs, en parlant de sacrifice, parce que. Alors, ouais, ça aussi, parce que le film.
La scène post-générique.
Oui, j'ai vu. Mais je sais que je savais pas qu'il y en avait une.
Par hasard, là.
Ouais, je m'étais rendu compte. Et donc, finalement, Chaz qui devient un ange à la fin. Et parce qu'en fait, il était censé. Parce que, comment s'appelle, Francis Lawrence parlait de quand même faire une suite. Qui n'a jamais vu le jour, mais il en parlait quand même un petit moment après, parce que quand j'avais vu le moment où il en parlait, c'était en 2011, donc c'est 6 ans après que le film soit sorti, donc c'était un bail. Bon, ça n'a jamais vu le jour, mais je pense qu'il y avait un build-up pour une guerre céleste ou un truc comme ça.
Ouais.
On a échappé au pire.
Hey, peut-être qu'en fait la histoire était meilleure.
Non, c'est pas. Et toi, Watch, ton avis sur le scénario, etc.
Alors, le scénario, je connais pas très bien l'univers de Constantine. Comme je l'avais dit, en fait, je me suis dit, pour le coup, je vais pouvoir voir si un néophyte peut découvrir Constantine à travers ce film. Et en fait, j'ai envie de dire oui, parce que tu trouves Papa Midnight. Alors là, on parle de Satan, mais. C'est pas le personnage de Lucifer plutôt?
Oui, si, c'est Lucifer.
C'est la même chose.
Il appelle ça. Ouais, mais c'est un peu compliqué dans les comics.
Ouais, je me demandais si c'était pas vraiment Lucifer ou si c'était vraiment un autre personnage.
Non, c'est comme Satan.
C'est Lucifer. Là, c'est Lucifer parce qu'il l'appelle Lulu. Hein.
Mais dans l'idée, l'idée, c'est ça. En fait, l'idée de base, vraiment le début avec le cancer, etc. Et la fin, le fait que, on va dire Satan. Soit quelque part plus ou moins forcé de sauver la vie de John, enfin de l'aider à comment ça s'appelle, soigne son cancer. Ça c'est les comics. Après ouais. tout le reste non. Mais et encore que Lucifer le force pas dans les comics, il le force pas comme ça Là, c'est un peu différent. Il est capable de lui faire un doigt d'honneur aussi.
Mais par contre, le doigt d'honneur, je trouvais ça plutôt cool.
Ouais, j'ai trouvé cool aussi.
Par contre, donc en fait, toutes les bonnes idées, elles viennent du comics, du coup. Je pense que ça, je trouve ça positif, le rapport avec le cancer, le rapport avec le milieu du divin, entre l'idée des influences, entre les influences du bien et du mal sur la terre des hommes. Par contre, en tant que film, c'est de la grosse série B, donc je peux pas dire que c'est un mauvais film en soi, parce que tu peux te marrer sur les scènes qui se veulent effrayantes. La scène d'introduction, on parle de la scène post-générique, mais alors la scène d'introduction, t'as deux Mexicains qui fouillent par terre, t'en as un, il gratte juste un truc, tu vois, même pas la taille d'une cave, t'as juste un trou dans le sable, il plonge la main, il ressort l'artefact, et puis là, tu sais pas pourquoi, il se lève et il marche. Du coup, t'as son frère qui est là, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu parles plus, t'es trop bizarre, il marche, et puis là, tout à coup, il se prend une voiture dans la gueule, la voiture, elle est limite fendue en deux, tu vois. Quand tu vois la gueule de la voiture, tu te dis bon, ok, il s'en est sorti, parce que de toute manière, quelqu'un qui se mange une voiture, la voiture ne finit pas comme ça, c'est plutôt toi qui finis démonté. Mais c'est tellement forcé, toute l'idée de transformation par l'artefact, etc. Et ce personnage-là, mais il y a tellement rien qui s'y dégage, t'as l'impression que c'est juste une blague. Je m'attendais limite, tu vois, une pub drôle. Mais non, c'était vraiment l'introduction au scénario l'introduction au film qui voulait te dire l'artefact, il est super dangereux, trop puissant, blablabla. Mais ça marche pas, en fait. Tout est sujet à dérision. Et c'est tellement gros, tout est grossi. Même le jeu des acteurs est grossi. On parlait de... Comment elle s'appelle ? Du coup, je vais l'appeler David Bowie aussi maintenant.
Gabrielle.
Ouais, voilà, l'actrice qui joue Gabrielle, je l'aime bien aussi. Je pense qu'en termes de physionomie, c'est vraiment une très bonne actrice choisie pour le rôle. Mais elle force à mort. Pareil pour le personnage qui joue Lucifer. Excellent. J'ai trouvé excellent, mais il force à mort aussi. Donc, il y a des moments où tu te dis « Ah, c'est trop bien !» Et il y a quelque chose qui te dérange. Et en fait, c'est le surjeu permanent. Il n'y a que Keanu Reeves où, en fait, tu as l'impression qu'il est là et qu'il en a rien à foutre. Et tu dis que ça colle plutôt bien à Constantine. Le problème, c'est que le caractère de Keanu Reeves, il fait plus personnage attachant et le héros typique hollywoodien.
Il manque un peu de sarcasme, je trouve. Genre, il est plus sarcasme. En mode j'en ai plus rien à branler que vraiment sarcastique.
Ses vannes, elles sont forcées.
Ouais, il est pas drôle en fait. Alors que Constantine, il est drôle, mais il est cassant, tu vois. C'est le gars qui est ultra cynique sur plein de choses.
Il y a un truc qui est drôle là, c'est que en voyant le film, je me suis dit tiens, c'est marrant, ça fait un deuxième personnage réalisé par les Américains qui passe de la nationalité anglaise à une nationalité américaine. C'est-à-dire que le premier film James Bond qui avait été tourné dans les années 50. Pareil, c'est les Américains qui l'ont fait, et James Bond est devenu américain à la CIA. Et il ne s'appelait plus James Bond, d'ailleurs, il s'appelait Jimmy Bond. Donc du coup, on dirait qu'ils ont fait la même chose. Ils lui ont tué sa nationalité pour le transformer, donc j'ai trouvé ça assez comique.
C'est
les Américains.
Du coup, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, c'est de la série B. C'est de la grosse série B. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que il y a un petit peu d'attachement pour ce film quand même, parce que même si c'est pas une très bonne adaptation, ça reste une adaptation grand public, mais qui est pas vraiment mauvaise en soi, parce que elle va s'affilier à tout ce qui était Underworld, etc., comme on le disait au départ, et tous ces films sombres du début des années 2000. Et je trouve que ça représente bien cette génération, ce qui fait aussi... Ce qui prouve,
il en fait trop, et c'est ce qui quelque part le rend attachant, mais le dessert. Je pense que c'est ça.
C'est ça.
Ils se prennent trop au sérieux.
Non, je pense que je trouve que ils en ont trop fait. On sait que il y a tout le côté magique, etc. Et pour le coup, je trouve que ils en ont trop fait. Et c'est bizarre que je dise ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'idée du film, c'est qu'au début, il t'introduit le personnage de la flic, etc., pour te mener vers une enquête. Et c'est ça, en fait. L'idée, c'est qu'il y a une enquête policière. C'est comment on arrive là. Et le problème, c'est qu'une enquête policière, ça suit, pour le public, ça suit des repères précis, des choses qui sont logiques et des raisonnements précis. Alors, tu peux rajouter un peu de magie, etc., si tu veux, mais il faut que ça reste cohérent. Et là, ils enchaînent des trucs magiques qui sortent, bah, ça sort du chapeau, tu vois, genre des trucs, si non, je mets...
Ça sort du shotgun, s'il te plaît.
Non, mais ça sort du shotgun, ça commence à mettre, tu vois, il y a des scènes qui sont cool, mais tu comprends pas trop où on va, en fait. Et je pense que c'est ça, c'est que quand tu suis, t'es un spectateur et que tu suis une enquête policière, tu suis l'enquête en même temps que le détective. Or là, la détective, elle est totalement... Parce qu'elle sert à rien, en fait, elle est quasiment prétexte. Et tu suis Constantine. Le problème, c'est que Constantine, il explique pas les choses. C'est-à-dire qu'il arrive, il fait son truc magique, et ça donne autre chose, et t'attends qu'il explique. Et je trouve que c'est assez déroutant, parce que, vite fait, en tant que spectateur, bah, tu te contentes d'attendre et de dire, bon, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, parce que j'ai pas très bien compris. Genre, au début, ça va, tu vois, Constantine, il met ses deux pieds dans une bassine d'eau et il chope un chat par la gorge, tu fais OK. Mais...
Ouais, il a enlevé ses chaussures avant.
Oui, voilà. Mais après, tu sais, tu enchaînes des trucs comme ça. Genre, quand ils vont péter la gueule du démon dans la tour, ils fusionnent. Enfin, il y a plein de trucs magiques qui font que tu sais pas où il va. Genre, quand ils se pointent, t'as tout le passage avec la chaise, tu vois. Ben, tout ce passage avec la chaise, tu sais pas trop ce qu'il va en foutre. T'as juste un passage, t'as bien, genre, 15 minutes dans le film, où t'as Constantine qui décide de se pointer chez Papa Midnight, démonter des gars, prendre la chaise, utiliser la chaise, faire plonger. Et ça dure 15 minutes dans le film. Et c'est 15 minutes dans le film où tu sais pas ce qu'il fait, John. Genre, t'es là en mode, bah, il va utiliser la chaise. Et 15 minutes dans un film, bah, c'est énorme. C'est énorme. Mmh. 15 minutes où le spectateur, t'es censé suivre une enquête policière et tu sais pas ce qu'il fout, eh ben, c'est compliqué. Et à la fin, t'arrives vite fait à raccrocher les morceaux, mais il y a toute une moitié de film, tout un cœur du film, où t'es totalement perdu et tu reprends le wagon en marche quand bah, t'arrives à la fin où ils se farcissent Gabriel et ils discutent, etc. Et que t'as Lucifer qui débarque, etc. Et là, tu comprends à peu près où tu vas. Mais vraiment, cette intrigue d'incarnation du mal, etc. Et puis on va faire revivre Mammon et tout le bordel, bah, elle est vachement confuse parce qu'on sait pas où elle va. Et il n'y a que Constantine qui a les clés pour comprendre tout ça.
Du coup, c'est compliqué. C'est le personnage de Rachel Weisz qui est le plus mal écrit, parce que ça devrait être à travers elle.
Oui, c'est ça.
Qu'on est censé se mettre et qu'on est censé comprendre les choses en même temps qu'elle.
Tu peux pas t'identifier.
C'est marrant, ça. C'est encore plus mal écrit à ce niveau-là, quoi, au niveau du personnage qui, en plus, n'est que la femme classique qui doit se faire sauver et qui se met dans la merde toute seule.
C'est pour ça que je me dis...
Que d'attirance sexuelle à...
Justement, à peu près à la même époque, il y a un autre film, une autre adaptation de comics qui est sortie, c'est Hellboy. Et ils ont fait la même chose dans Hellboy, c'est-à-dire qu'ils ont mis un autre personnage, ils avaient mis le personnage de John Meyer, je crois, qui sert au spectateur de point d'attache. C'est-à-dire qu'on suit ce mec-là qui découvre l'univers de Hellboy. Et comme ça, grâce à lui, on nous présente, genre, ça c'est ça, et on va affronter ci, on va affronter ça. Et... ils ont juste oublié de le mettre, ils ont juste obligé de faire ça dans Constantine.
Mais je pense qu'il y a, un problème d'attachement au personnage de Constantine, parce que honnêtement, tu vois, nous, on connaît tous le personnage. Mais je prends un mec qui. Enfin, on connaît tous le personnage, tu vois, genre. Mais je prends un mec qui a jamais vu, qui connaît pas Constantine, etc. Constantine, dans ce film, il est quasiment pas introduit. Genre, c'est quoi son... Tu sais qu'il va crever, ok.
Mais il est introduit.
Oui, enfin,
il s'introduit. Je suis Constantine.
Oui,
John Constantine. Oui. Bon.
Mais quand tu vois Hellboy, t'as toute une montagne. Quand tu vois le film Hellboy, déjà, on te montre l'arrivée de Hellboy. Dans le film, on te montre l'arrivée de Hellboy sur Terre. On le voit grandir, on le voit, etc. John Constantine, on le connaît très peu. On met du temps à les courir. On sait que le gars, il a été... Il a essayé de se buter quand il était enfant, mais c'est à peu près toutes les clés qu'on a sur le personnage. Et je trouve que le film échoue un peu à le rendre attachant. Et il échoue un peu à rendre le personnage de Rachel Weisz attachant aussi. Et du coup, tu te dis, mais qui... Enfin, pour qui t'as peur? Parce que moi, clairement, arrivé à la fin du film, je t'avoue que Rachel Weisz, elle crevait, c'était pareil pour moi. J'en avais rien à foutre.
Surtout qu'ils étaient tous morts.
Voilà. Et John, je suis attaché au personnage de John Constantine, mais fondamentalement, à part le fait qu'il va crever, t'as peu d'accroche pour, t'as peu d'amorce pour t'accrocher au personnage. pour te dire explique-moi pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre de toi. Parce que ok, tu vas crever, c'est triste, mais fondamentalement ça, le personnage n'est pas spécialement drôle, il parle très peu. Quand il essaye d'être drôle, ça échoue et c'est plus derrière le malaise.
Ils essayent d'être drôles. Hein.
Ouais, ils essayent d'être drôles.
Mais c'est Kenny Reeves, quoi.
Oui, voilà.
Il se repose beaucoup sur l'aura de l'acteur plus que sur l'écriture du personnage, je pense.
Et c'est un peu le problème, c'est que dans ce film, il y a très peu de personnages. Finalement, le personnage qui est le mieux caractérisé du film, c'est Gabriel. Qui a le plus de substance, c'est Gabriel, parce que très vite, tu comprends comment il pense. Tu comprends ses motivations, tu vois son rapport avec son père, tu vois son etc. Et c'est le personnage qui est le plus développé finalement.
Ouais, en 2 minutes d'écran.
Ouais, et quand on te dit bah c'est le méchant, tu fais bah oui évidemment. De toute façon, tu voulais que ça soit qui ? T'avais ça ou le gros monstre en CGI ? Il l'avait déjà mis au début du film, c'était un essaim. Donc ouais, t'as Chaz qui fait 2-3 blagues, mais.
Je trouvais que le prêtre m'avait toujours marqué. Bon déjà c'est l'acteur qui joue le prêtre, il a une tête de ouf. Si vous voulez, l'acteur qui joue le prêtre, il joue aussi dans Identity, et dans Identity, il est juste flippant. Mais le prêtre, je trouve que lui, il est pas mal. Enfin, très rapidement, on comprend que c'est un type qui est CDD avec ses maigres moyens, qui a visiblement un don qu'il essaie de cacher parce qu'il a peur de ce qu'il voit. Et parce qu'il a peur de ce qu'il voit, il doit boire, d'ailleurs, il le dit qu'il picole pour l'aider à dormir, parce que sinon, il n'y arrive pas parce qu'il a vu trop de merde. Mais il essaie quand même d'être gentil et Enfin, le mec, enfin, je trouve que c'est un des personnages qui est pas mal travaillé, mais bon, il fait pas longtemps.
Il a une des meilleures scènes du film aussi. Celle où il essaye de boire et qu'il est ouais. Le liquide ne sort pas. Ça, c'est une des scènes qui m'avait le plus marqué à l'époque.
Moi aussi, j'avais pas fait attention qu'effectivement, on voyait déjà du liquide tomber, alors que justement, lui, il n'en boit pas. Et finalement, c'est vrai que cette scène était bien foutue parce que. On voit que finalement, le type, il y a de l'eau qui tombe, mais que c'est lui qui ne la voit pas. Enfin, de l'eau, du liquide. Parce que voilà.
Non, cette scène, tu vois, il y a plein de trucs qui marchent super bien, quand même. Hein. Mais, ouais. Tu vois, il y a des trucs, par exemple, je pense qu'il aurait fallu virer un personnage. Soit tu virais le prêtre, soit tu virais Chaz, mais je pense qu'il aurait mieux valu virer Chaz, parce qu'il apporte pas grand-chose dans ce film, quand tu regardes bien. On aurait très bien pu s'en sortir sans lui et donner plus d'importance à Rachel Weisz. Et en plus de ça, la mort de Chaz n'a aucun impact. D'ailleurs, tu te demandes, quand elle arrive, tu te demandes même s'il est vraiment mort. Ouais. Parce qu'il est soulevé, elle éclate sur le plafond. Et il retombe. Et là, tu te dis, oh, ok. Et il y a un petit moment de battement. Tu te dis, bon, au début, tu te dis peut-être qu'il est mort sur le coup. Finalement, il n'est pas mort sur le coup et il commence un petit peu à parler. Et là, tu te dis, bah, il est. Qu'est-ce qui lui arrive ? Et là, il ferme les yeux, etc. Tu dis, mais attends, il est vraiment mort, là ? Pour moi, il aurait fallu le tuer. Il y a des trucs qui manquent d'impact. Ils auraient dû le buter d'un coup ou faire quelque chose d'autre. Mais le film est toujours sur des entre-deux. Des fois, il essaye de trop bien faire et il se foire. Des fois, il n'en fait pas assez.
Mais surtout que c'était encore un personnage pas assez développé pour qu'on ait un peu d'intérêt pour lui, quoi. Enfin, si, t'apprends 5 minutes avant, t'apprends quelque chose sur son passé. Donc, déjà... T'apprends quelque chose sur le passé de quelqu'un et il crève juste après, ça c'est normal.
Classique.
Voilà. C'est des personnages qui, tu vois, t'es pas attaché à eux, tu t'en fous. Bon, à la limite, Rachel Weisz, si tu connais l'acteur. Enfin, voilà, à l'époque, elle était peut-être. Je sais pas, elle avait fait quoi.
Non, elle a
fait Stalingrad.
Non, elle a fait la momie. C'était. Alors, c'est un des gros blockbusters pour moi, un truc assez marquant, un film assez marquant des années 2000 quand même, la momie.
Donc ouais, tu te reposes sur tes acteurs, quoi, au final. Chez la bouffe, pas connu encore. Donc,
Bah, c'est tous... en gros, ça se repose majoritairement sur Keanu Reeves. Et sur...
C'est les acteurs que leurs personnages, quoi.
Ouais, si, elle avait fait La Momie, Stalingrad, Le Retour de la Momie, Confidence, Le Maître du Jeu. Ouais, elle était meilleure dans les autres films, hein, quand même.
Oui, alors le couple de base qui n'a pas beaucoup d'alchimie, qui ont pas trop de développement, mais en plus ils jouent d'une façon tellement plate comparé aux autres qui surjouent à mort. Enfin, moi, Peter Stormare, je l'aime beaucoup, hein. Mais son Lucifer, il m'a gêné un peu quand même.
Il y a des moments où ça passe très bien, et il y a des moments où il en fait trop. Moi, j'aime bien des moments quand il cabotine un max et il est là en mode bien sadique, je suis en mode ok, et des moments c'est un peu trop.
En même temps, tu vois, quand tu me le dis, voilà, c'est Peter Stormare, il va jouer Lucifer, tout de suite, je suis content, je lui imagine un truc, je me dis, ça va être trop bien. Et donc, forcément, peut-être un peu déçu, quoi. Mais au final, voilà, genre, moi, mon personnage préféré dans le film, c'est Papa Midnight, quoi. Ça devrait pas être le cas.
Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus.
Il est cool, tu vois, il fait son truc.
Par contre, Jimmy Hunsun, il me fatigue, c'est qu'il joue toujours de la même façon ses personnages, il est toujours un peu énervé.
Il est toujours énervé.
C'est quand il tape sur la table et que la moitié des verres, il se barre.
Il est tout le temps énervé dans tous ses films, je comprends pas. Par contre, vous avez remarqué qu'il y a une actrice connue aussi qui a en fait été coupée au montage, mais on la voit vite fait à la fin.
Je connais l'histoire, mais...
Michel, je l'avais jamais vu, je l'ai vu par hasard là. J'ai vu sa tête, je fais hey! Elle venait, en gros, c'était ses débuts et elle a été coupée au montage et on la voit juste à la fin dire un truc du genre de l'eau bénite. Parce qu'il fallait qu'on nous explique ce qu'on nous avait déjà expliqué quand même. On nous explique qu'il va mettre le truc dans l'eau pour que. Enfin, tout est expliqué, mais c'est pas grave, quand ça arrive, faut qu'on nous le dise.
On le voit, ouais, on voit même.
On voit tout. D'ailleurs, il faudra qu'il m'explique comment il a réussi à faire passer sa croix avec son petit trou.
Écoute, on a pas le temps.
C'est quand même bien que le film se trouve là, te prenne le temps de t'expliquer ça. Alors que ça fait une heure et demie que le film te trimballe et il te montre des trucs, ça n'a aucun sens. Et le spectateur est là en mode « Ok, ça marche ». Et là, à la fin, on te dit « Non, mais attends, je vais t'expliquer. Je vais te le réexpliquer, on ne sait jamais. Hein. » Là, c'est important.
Surtout que ouais, c'est le seul moment où en fait, on montre que finalement, le personnage de Chaz, il n'est pas là pour décorer, en fait. Il est vraiment là depuis un moment, il suit les aventures. Et puis on te le zigouille dans la foulée, quoi.
Mais je pense qu'ils auraient dû virer Chaz et balancer à la fin Pop Midnight qui vient aider. Parce qu'au final, Chaz, il est gentil, mais bon. Alors que Pop Midnight, il pèse dans le game, il a quand même un minimum connaissance des.
Il faut quelqu'un qui meurt.
Ouais, mais là il était noir, du coup ça passait crème, mec.
On peut pas tuer Jim Adonsu, ça compte pas.
Non, c'est impossible, on peut pas le tuer.
Ouais.
Mais il y avait un truc à jouer, mais tu vois, il n'empêche que, comme l'avait dit Watch, le truc est tellement over the top sur plein de choses que finalement le film est attachant. Et les gens s'en souviennent quand même de ce film. Parmi plein de films, quand tu leur parles de Constantine. Il se rappelle du truc, il se rappelle pas forcément du scénar, mais il se rappelle que à la fin le méchant c'est l'ange et qu'il y a Keanu Reeves. Tu vois l'affiche en fait quand on parle de Constantine.
Il atteint jamais la grâce qu'il essaye d'atteindre, quoi. Il veut faire des trucs, il y arrive pas. C'est clair qu'il y a des scènes cool, il y a des moments que j'apprécie, des moments où je me fais grave chier, quoi. Mais il arrive pas à atteindre ce qu'il essaye d'atteindre et c'est Blade en fait. Enfin, pour moi c'est.
Ah non, je trouve que c'est en dessous de Blade.
Ça dépend lesquels.
Blade. Je te parlais de premier, hein, c'est tout. Hein.
Ah, ouais, le troisième avec le chihuahua.
Je te parle de Blade 1. Pour moi, c'est un peu lui. Alors, c'est peut-être parce que moi, j'ai commencé par là, cette vague de films fantastiques super-héros, quoi. Ça essaye d'être Blade. Enfin, ça se voit un petit peu, les scènes d'action dans les...
Je pensais plus, tu vois, à Hellboy, en fait, plutôt qu'à Blade, sur l'esprit. Entre l'humour, Hellboy, etc. Blade, c'était beaucoup plus terre-à-terre... Faut pas déconner
fun. Non, justement, tu vois, Blade, c'est plus fun parce que ça se prend moins au sérieux. Ça essaye moins de faire des trucs compliqués. Je me marre beaucoup plus devant Blade que devant Constantine, tu vois.
Ah, je me marre plus devant Constantine que devant Blade, mais Blade, tu vois, je trouve que c'est un meilleur film parce que justement, il arrive à imposer son ambiance. Et le premier, je le trouve super sérieux, le deuxième, un petit peu moins, ce qui fait que je l'apprécie un peu moins. Mais alors, Constantine, tu vois, c'est tellement trop que non.
Ah, si Blade 2, mec. Hellboy, ça... il n'y aurait pas Hellboy sans Blade 2. De toute façon,
je suis d'accord avec toi.
Il n'y aurait pas Constantine.
Tu vois, ce côté, par exemple, ce côté punk qu'a Constantine, il est totalement... Il n'apparaît jamais dans ce film, par exemple. Dans ce film. Hellboy est un film plus punk que le film Constantine.
Ouais. Mais dans Constantine, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'il est habillé tout le temps en costard. Je pense qu'on leur a dit, le mec est tout le temps habillé avec genre une cravate, une chemise... Et ils ont même pas réfléchi à comment il est habillé et pourquoi. Ils l'ont habillé pareil. Le type, il se met les chaussures qui ont l'air de coûter un max dans la flotte. Elles sont en cuir, c'est peut-être pas fait pour. Il s'en bat les couilles. Il plonge sa montre automatique. On voit qu'elle est automatique à la fin. Dans l'eau, je pense pas qu'elle soit étanche. Il s'en bat les couilles. Par contre, on vient lui crader sa chemise, et là, il vient de dire, elle coûtait 200$. Genre, là, ça t'inquiète, mec. Genre, donc, en fait, tu t'habilles avec des trucs super chers, et ça t'inquiète qu'on te les salisse. Mais c'est pas ça, quoi. C'est pas genre un mec qui est pété de thunes, et qui... Enfin, c'est bizarre d'être passé à côté du personnage.
Ouais, bah, il est américain, aussi. Quoi. Bah, c'est ouais, pour son type d'américain.
Je trouve ça con. Par contre, je reviens sur un truc à The Watch. Quand j'ai commencé le film, quand j'ai vu le film à l'époque, je connaissais pas le personnage, je savais juste que c'était un personnage de comics. Et les petits éléments qu'on récupère, quand j'ai découvert un peu le comics après, j'étais pas perdu. Je me suis dit, ah oui, effectivement, il y avait ça. Ah oui, il y avait le cancer, oui. Ah ben, Chaz, ça me dit, ils en parlent, Papa Midnight, tout ça. Il y a deux, trois trucs quoi, qui t'aident quand même à te mettre dans le personnage. Donc, je trouve que pour entrer dans le personnage, ça peut être intéressant.
Il y a le côté sale gosse, quoi.
Ouais, mais je trouve ça encore mieux. En gros, c'est bien pour découvrir le personnage et pour te dire, va lire un comics derrière, parce que ça va être encore meilleur.
Non, mais les bases sont posées. Genre, t'as la mythologie, enfin, t'as plus ou moins à peu près qui est qui. T'ouvres un comics, t'es normalement, dans l'ensemble, tu vois à peu près où on va. Tu vois à peu près où on va. Mais tu vois, il y a des choses qui sont évincées. Le truc de base de Constantine, quand tu veux le caractériser, c'est tu parles des événements de Newcastle où c'est un truc de base de Constantine, c'est il fait un rituel, ça foire, t'as une gamine qui crève, et voilà, ça c'est la base de la mythologie, vraiment c'est la base de la mythologie Constantine, c'est un peu le Batman, c'est ses parents ils sont morts, non mais en fait c'est ça, tu vois, genre pour les événements de Newcastle avec Asra qui meurt, etc. C'est un peu pour Batman, chaque nouveau mec sur un Batman, il te balance ses parents sont morts, et t'as forcément cette scène, tu vois, à peu près. Là, c'est pareil pour Constantine. Et je trouvais ça un peu étrange de pas le voir apparaître là.
Non, parce qu'ils ont vraiment tout mis que sur le suicide. Tout le film parle de suicide.
Voilà.
Donc, ils doivent avoir un problème, les scénaristes ou quelqu'un dans la prod ou le réalisateur. Ils ont un problème avec le suicide quelque part. Il y a un truc qui les dérange. Et je sais pas, peut-être qu'ils veulent réhabiliter le suicide ou alors au contraire descendre le suicide, je sais pas. Il y a un truc, ils ont une relation avec le suicide qui était bizarre.
C'est, à mon avis, ils ont choisi le passage de la Bible qui dit que si tu te suicides, tu vas pas au paradis, quoi. À mon avis, ça les a marqués.
Sauf si tu le fais pour une bonne raison, visiblement.
Et d'ailleurs, en parlant de suicide, qui a joué au jeu vidéo Constantine PC sorti en 2005?
Non, j'ai pas
osé faire ça.
Eh bien, parce que quelqu'un se l'est coltiné, les petits amis.
Ah oui, je veux tout savoir. Alors, j'ai envie de regarder plein de vidéos là.
Il est sorti aussi sur PS2.
Tu sais, quand il y a eu des jeux Batman Begins,
Batman Begins était très cool.
Alors, tu vois Max Payne?
Ouais.
Imagine que c'est Max Payne, mais il n'y a pas de bullet time et tu peux pas faire de saut en avant. Imagine que t'es juste droit et t'as les ennemis. Et déjà, il affronte des zombies, donc ça commence mal. Et en fait, imagine que toi, t'es juste statique avec tes deux bras en avant et où tu te balades avec ta, comment ça s'appelle, la fameuse arbalète. Machin, là.
Le fusil à pompe.
Non, alors c'est un fusil à pompe doré, avec un barillet en or massif, avec des balles en or massif et avec une lampe de poche accrochée au-dessus.
Mais au début, tu l'as pas, t'as juste deux flingues de merde.
Ouais, et a priori, le remède de la sorcière, c'est n'importe quoi.
Alors les gars, le boss final, vous êtes pas prêts. Hein. Oh, le boss final, genre, une horreur. Genre,
Dan Gabriel. Dio.
Non, mais t'as... Alors, en fait, ils ont refait la scène, donc ça se passe dans la piscine, et tu sais, le toit, c'est une plaque de verre, et imagine que t'as des trous dans le toit, imagine que c'est un carré, voilà, et chaque angle du carré, il y a un mini carré, et t'as Gabriel qui fait des plongeons piqués à travers ces carrés, qui swing dans les endroits de la piscine et qui ressort par un carré opposé. Et toi, t'es là, et des fois, elle te balance des arcs électriques aussi. Tu dois la dégommer avec ton fameux fusil à pompe. Et c'est un très, très, très grand moment de gameplay. Hein.
Metal Gear Solid 2 a fait la même chose, en mieux, avec le duel contre Vamp.
Ouais, alors là, t'as bien compris qu'on disait loin de MGS2, quand même. Hein.
Non, mais je pense qu'ils se sont inspirés de ça pour faire leur merde.
C'est un plagiat. Ah, c'était le jeu, il est. Et je me suis dit, c'est peut-être que moi.
Du coup.
Ouais, je suis jusqu'au bout. Et je pouvais me dire, au début, je me suis dit, mais c'est juste que moi, parce que tu sais, il y a pas mal de jeux des années 2000, Tu sais, j'en ai fait, c'était un peu compliqué. Mais non, en fait, il s'est pris 9 sur 20. Donc, il s'est pris 8 ou 9 sur 20 sur jeuxvideo.com. Mais c'était l'époque où jeuxvideo.com n'était pas là en mode bon, vous prenez tous 3 points de plus que ce que vous devriez avoir. Donc, non, là, il s'est pris un 8 sur 20 et c'est mérité. Et du coup, il galère un max pour faire les boss. Et par exemple, t'affrontes le monstre essaim, mais le monstre essaim, en fait, il a une forme humaine. Il a vraiment une forme humaine pour le coup. Et genre, tu te mets à taper la discute avec lui. Genre, à un moment donné, il sort, je crois qu'il sort vraiment par. Enfin, t'as l'arène du boss, et il rentre dans l'arène, mais par une porte, en fait. Genre, il prend forme humaine, il rentre en mode je prends la poignée, j'ouvre, il fait salut. On se bat, tu fais ouais, voilà. c'est vraiment extraordinaire. Ah, le jeu, il est merveilleux. Je crois qu'il y a sûrement des trucs que vous pouvez aller trouver sur YouTube.
Ah, mais je peux regarder une scène de gameplay, t'as quand même des sorts à lancer et tout ça, quoi. Oh bordel, il y a des vues FPS dégueulasses par contre.
Ouais, non, il y a des sorts aussi. Il y a des sorts. Non,
en fait, il valait mieux pas faire de sorts là-dessus.
Non, mais va voir le boss final.
Je me rappelle qu'il était. Enfin, je le voyais souvent dans les rayons, mais je l'ai jamais pris.
Ouais, le boss final, il est merveilleux.
Mais par contre, à cette époque, je l'avais jamais pris, mais j'avais pris Underworld sur PS2.
Waouh. Mais tu sais qu'à l'époque, ça, tu vois, ça c'est un truc qui ne se fait plus.
Ouais.
C'est que quelques. Non mais quand, tu vois, quand moi j'étais gosse, tous les films, tous les nouveaux films, tout ce qui sortait au cinéma avait son jeu vidéo. C'était obligatoire, c'est pour ça qu'on avait des jeux, je me rappelle, t'avais les jeux Les Orphelins Baudelaire quand le film est sorti, t'avais des jeux Spiderwick, tous les Disney, je me rappelle quand Alice au Pays des
Mauvais souvenirs que tu balances toi.
Quand Alice au Pays des Merveilles est sorti, t'avais des jeux de tout, tous les jeux, même les jeux Disney, je me rappelle que par exemple Atlantide, quand il est sorti L'Empire Perdu, il est sorti, t'avais une sorte de FPS à la Doom-like. Ouais. En mode
bienvenue chez les ch'tis sur DS.
Oui, non, mais c'est des trucs. Oui, non, mais c'est des trucs de fou. Bon, maintenant, on a toujours Fort Boyard, le jeu sur Nintendo Switch, hein, 50€, les gars. Faites-vous plaisir. Lourd jeu.
J'y vais de suite.
Je me rappelle que t'avais des jeux, mais tout, mais même les émissions PT France 2, France 3 avaient des trucs. Je me rappelle qu'il y avait des jeux vidéo PC Interville. Alors, ceux qui sont vraiment jeunes savent pas ce que c'est Interville, mais c'était quand même extraordinaire, quoi. Et il y avait des jeux vidéo, t'avais des jeux vidéo Big Deal. Mais c'était un truc, tout devait avoir son jeu vidéo, même si c'était de la merde, tout ce qui sortait et apparaissait sur un écran devait avoir un jeu vidéo. Et c'est un truc qui ne se fait plus actuellement. J'ai vu peu.
On est bien content d'ailleurs.
On est très bien content. Alors il y avait des trucs qui étaient sympatoches quand même, parce que t'avais des trucs, c'était vraiment de la merde, il y avait des trucs qui étaient quand même assez agréables, et t'avais des jeux qui étaient cool.
Le dernier.
Spider-Man 2 est quand même considéré comme l'un des meilleurs jeux Spider-Man, et il est
pas
adapté du jeu, du film.
Le X-Men Origins Wolverine est un très bon jeu.
Ah oui.
Je crois que c'est un des meilleurs jeux adaptés d'un film
Marvel. Un des meilleurs jeux Marvel tout court.
Avant qu'Arkham ne sorte, c'était l'un des meilleurs jeux comics presque qui était sorti. Hein.
Ouais. Mais tu regardes, et ça s'est fait encore tardivement, parce que toute la phase 1 de Marvel. Les films, et tous les films avaient leur jeu. Il y a eu un jeu vidéo Iron Man qui était de la merde. T'as eu un jeu vidéo Captain America qui était très moyen. T'as eu un jeu vidéo Thor qui était correct. Ouais, qui était correct. Donc,
il y a un jeu Green Lantern.
Ouais, t'as eu un jeu Hulk aussi.
T'as eu le jeu Green Lantern, c'est vrai.
Il y a eu un jeu pour la sortie d'X-Men.
Superman Returns, c'était de la merde, mais il y avait un jeu.
Ouais.
Il y avait un jeu
pour la sortie d'X-Men 3, ils ont fait un jeu qui se passait entre le 2 et le 3. C'était une grosse merde.
Oui.
C'était waouh.
Les quatre fantastiques, ouais. tout avait un jeu. Et c'est un truc qui n'existe plus actuellement, tu vois. Et ça paraîtrait même presque, si ça recommençait, ça paraîtrait même un peu étrange, tu vois. Si on te disait que là il y allait avoir un
podcast, Constantine a complètement dévié de son
sujet. Non, c'est
mais podcast vidéo là.
Juste sur le fond, tu dis que par exemple, tu vois, si on m'avait annoncé que avec la sortie de BVS, il y avait un jeu vidéo BVS. Ça m'aurait fait un peu bizarre.
Il y aurait pu en avoir un, et il y en a peut-être eu un, mais maintenant c'est jeu mobile.
Oui,
vu que c'est que promotionnel.
Ou alors c'est un jeu, tu vois, un jeu qui a été développé en parallèle, mais qui n'a pas forcément de lien, comme on a eu, juste après la sortie de Spider-Man Homecoming, etc., on a eu le Spider-Man PS4. Tu vois, dans la continuité. Parce que c'était déjà. Mais ça, les deux n'ont rien à voir. Mais il y a plus ça.
Ouais, c'est pour faire de la promo maintenant.
Du coup, voilà. Alors après, tu vois, je sais pas à combien, je sais pas si le merchandising autour de Constantine, déjà, il n'y en a pas eu des masses, à part le jeu vidéo. Il y a eu, vous pouvez toujours acheter des briquets sur AliExpress, le briquet de John Constantine, vu qu'il sort 40 fois dans le film, je me suis renseigné. Pouvez-vous l'avoir pour 25 balles sur, vous pouvez avoir le 25 balles sur AliExpress environ.
Oui, mais lui-même le dit, fumer c'est mal, mettez-vous au chewing-gum.
Ouais, c'est vrai. Et le briquet, ouais. Par contre, vous le tenez pas dans la poche. Hein. J'ai regardé le truc, il est, c'est pas ouais, un Zippo classique. Ah, c'est un truc assez vénère hein, que vous achetez. Mais du coup, vous pouvez l'acheter assez
quand même
aisément.
Un truc que fait le film, c'est ok, on fait en sorte que Constantine y fume, on assume et tout. Mais ils insistent bien sur le fait que c'est pas bien, quoi.
Mais d'ailleurs, à la fin, il arrête.
Oui, il s'en oui, mettre là.
Et ce qui est drôle, c'est qu'ils lui ont dit que c'est à cause des 15 cigarettes qu'il fume par jour.
Oui.
C'est pas beaucoup. J'en connais plein qui en fument bien plus que ça.
Ouais, mais non, mais 15, mec.
Ils disent pas 30 ?
Ouais, j'ai souvenir de 30 aussi.
Ouais, franchement, les gars, 15, c'est déjà chaud. Hein.
C'est 15 de trop, on va pas se cacher.
Oui, c'est 15 de trop, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même presque plus d'une cigarette par heure.
D'ailleurs, vu qu'on est dans la période, je tiens à préciser que les gens qui fument en cette période risquent d'avoir des grosses complications s'ils attrapent le virus. Ça aide pas.
C'est sûr que
on le voit tousser comme un âne, là, bah, ça qui.
Ouais. C'est, pour pécho les meufs, ça va être compliqué. Gars.
C'est vrai que le film est coronavirus friendly. Ça, on peut le préciser.
Ah, il n'y a pas de distance de sécurité hein, entre les deux protagonistes. Ils ne s'embrassent pas, mais ils sont un peu trop proches quand même.
Mais du coup, genre maintenant, pour on va dire pour conclure, finir, mais j'aimerais quand même vous poser la question. Finalement, qui est-ce qui a le mieux réussi ? Alors même si c'est pas très comparable parce que les formats sont divers, mais entre Constantine le film et finalement Constantine la série TV qui a été arrêtée prématurément au bout de 13 épisodes, 15 entre ouais, 13 et 15, 13. 13 épisodes. Du coup, pour vous, qu'est-ce qui a le plus réussi dans son approche ? Alors c'est vrai que c'est différent parce qu'on sait très bien que la série TV permet de faire beaucoup plus de choses du fait de son format.
Ouais, mais en même temps, moins avec le budget, quoi.
Voilà, moins avec le budget.
Alors,
l'acteur.
Vas-y, vas-y.
Je veux dire, moi, quand j'ai revu le film, j'arrêtais pas de penser à. Ah, merde, j'ai son nom qui m'échappe.
Matt Ryan.
Je pensais qu'à lui pendant tout le film, en train de me dire, mais. Il vient où ? Quand est-ce qu'il vient ? Ah oui, non, c'est vrai que c'est pas lui. Ah merde, c'est Keanu, qu'est-ce que c'est-il ? Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Et puis, je pensais à la scène faite avec Matt Ryan à la place. Et je me dis, mais il manque tellement quelque chose. Et je me dis, heureusement pour Keanu que ce film est sorti avant que Matt Ryan arrive. Parce que il aurait été cramé direct. Là, maintenant, le fait que Matt Ryan existe, pour moi, Keanu, il fait pitié.
Donc, moi,
Matt Ryan.
Je sais pas, en vrai. Parce que, en soi, la série, je trouve qu'elle était vraiment pas bien. Genre, elle me faisait ni rire, ni. Elle m'impressionnait pas, elle m'intéressait pas. Je regardais quelques épisodes et ça fonctionnait pas, quoi. Malgré le fait que l'acteur, c'est vrai qu'il dégage quelque chose et tout. Et que tu reconnais Constantine. Au fond, je crois que je préfère quand même le film à la série. Je m'amuse plus. À la limite avec le film, malgré ce que j'ai pu dire à son sujet, quoi. Parce que la série ne m'intéresse pas, tu vois, je vais tout de suite ouvrir autre chose à côté. Et du coup, Keanu Reeves en Constantine, ça me va autant, finalement. Le côté sale gosse est suffisamment là, et je suis pas assez fan de Constantine pour pinailler sur plus que ça, en vrai. Je comprends que le côté punk manque. Je le retrouve pas tellement sur Matt Ryan parce que vu qu'il vient d'une série pour ados, bah il est assez édulcoré aussi de son côté.
Par la suite, il est plus édulcoré, mais il, quand même dans la série, il y a 2-3 moments où ça taille pas mal.
Moi, j'aurais bien voulu un mélange des deux, tu vois, genre le ton de l'un sur l'autre. Genre ouais. Matt Ryan qui peut faire des fucks, fumer des clopes, mettre des coups de poing dans les jugulaires des personnes possédées.
Ouais, ça c'est vrai, tu vois. Ouais. Mais justement, je voulais juste revenir sur le fait qu'il n'arrête pas d'appeler le côté sale gosse de Keanu. Je trouve que justement, il a un côté sale gosse un petit peu dommage, c'est qu'on dirait qu'il se force en fait. Alors qu'il pourrait. J'ai la sensation que c'est genre l'enfant sage qui se force à être un sale gosse.
Il prend pas du plaisir à le faire, quoi. C'est plus, il est un peu plus déprimé, cynique. Tu sens que c'est un mec qui a envie de se buter, quoi.
C'est comme s'il manquait un petit quelque chose, c'est ça. Je pense que c'est.
Ouais, en fait, il manquait de James Wick, en fait. John Wick, pardon.
Ouais. Mais moi, ça me parle, tu vois, les mecs un peu déprimés comme ça.
Ouais, c'est reparti.
Ouais. Tu sais, moi, la vie en ce moment, c'est pas ça.
Hésite pas à nous appeler hein, avant de faire quelque chose. Tu sais, le suicide, c'est mal, ils viennent de le dire.
Non, je ferai pas ça. Je fume pas et je me suicide pas.
Je me suicide pas, non, ça
va. Mais quel homme! Il en faudrait plus comme lui.
Par contre, il picole.
Ah oui, par contre, désolé. Je fais des doigts aux gens.
Et toi, Watch, la comparaison du coup?
Je serais un peu comme Sledgy en fait. Par contre, j'ai bien aimé la série Constantine, donc je serais plus partant pour l'adaptation de la série. Enfin, je serais plus favorable à l'adaptation de la série parce que Matt Ryan est largement mieux. Mais justement, comme disait Sledgy,
Chaz était mieux aussi.
Chaz était bien mieux, oui. Il y a de côté, il n'y a pas de concurrence. Mais Matt Ryan, justement, il avait cette aura et ce ton qui était vraiment bon. Le problème, c'est que la série, justement, édulcorait un petit peu trop. Et en fait, le format de la série, je trouve que ça rendait pas honneur au personnage. Parce que rallonger le scénario en permanence, je pense que ça va pas. S'il fallait faire quelque chose avec Constantine, bah, justement, il aurait fallu de bons scénarios pour chaque épisode, avec, si tu veux, quelque chose en fil rouge, mais le fil rouge en tant qu'option, pas en tant que nécessité pour arriver à la fin de la saison. Et c'est l'inverse qui a été fait avec la série. Et sinon, l'option de Sledgy était vraiment super bonne, de l'idée de donner le ton du film à la série, même si je trouvais que la série était quand même déjà assez sombre, mais pas suffisamment.
La série était plus punk sur pas mal de points, et tu retrouvais. Enfin, en fait, Matt Ryan, il a ce côté. Il a vraiment. Ce qui le caractérise, à différence de Keanu Reeves, c'est que Keanu Reeves, il fait tout le temps la tronche, tu vois. Matt Ryan, il a toujours ce sourire en coin. Assez sarcastique, même à chaque fois que tu vois Matt Ryan, il a toujours ce petit sourire en mode je vais te niquer, tu vois. Mais vraiment, c'est une des caractéristiques de Constantine dans le film. Il est vraiment au bout du rouleau. Il est vraiment au bout du rouleau. Et tu vois, dans le comics, il y a vraiment un truc entre les deux, c'est que même quand Constantine est au bout du rouleau, etc., il se retrouve dans ce côté. Je vais canner, etc. Bah, il va voir des potes. Il va quand même voir des potes. Il garde ce côté ultra sarcastique. Il essaye de faire pas mal de choses. Il essaye de faire amende honorable. Et ça, c'est assez cool. Et c'est ce que tu ne retrouves pas, par exemple, ce que tu retrouves pas dans le film où là, il est juste en mode, j'en ai plus rien à foutre. Tu sais, il y a vraiment ce côté X-Men original, Wolverine. Je suis moins pessimiste que moins critique que Sledgy sur ce côté-là.
J'ai peur que ça ait un peu bugué.
Moi aussi.
Il me semblait bien qu'il
s'est... Ouais. Ma co est pas terrible, elle a baissé à fond, mais j'ai peur qu'on t'a pas trop entendu vers la fin.
Non, bon, c'est pas grave. Ouais.
Mais c'est revenu. Dès que t'as fini ta phrase, c'est revenu.
On avait l'impression que t'étais vénère.
C'est Discord, il dit, ta phrase elle est longue là quand même.
Ouais, je pense qu'on le coupera, non, mais en gros ce que je disais c'est que le fait que, enfin, j'aurais bien aimé garder que, en gros, le film était un peu nanardesque mais sympatoche, et que la série, je l'avais trouvé agréable, comme Watchful l'avait dit. J'étais moins critique que toi, Sledge. Après, ouais, j'aurais bien aimé qu'il soit plus sarcastique et moins totalement au bout du rouleau à faire des tentatives d'humour finalement qui ne fonctionnent pas.
Du coup, moi, j'adorerais le voir dans une sorte de mini-série, genre 6 épisodes d'une heure, peut-être un peu plus, mais pas plus d'épisodes que ça, tu vois. Genre un truc vraiment où chaque épisode a le temps de faire un truc vraiment cool, et, ouais. Mais pas beaucoup d'épisodes, du coup. Parce que...
Un peu comme Sherlock. C'est comme ça qu'il s'appelle, ouais.
Ouais. Moi, honnêtement, c'est pas un problème qui
britannique.
C'est pas un problème qui ressuscite Constantine en série, genre qu'il fasse que la CW fasse un mini truc, qu'elle tente quelque chose, tu vois.
Je pense que jamais quelqu'un a été aussi attaché à un personnage comme Matt Ryan, quoi. Genre on l'utilise pour faire la voix de Constantine, jouer Constantine dans toutes les séries. Genre ce mec-là, il est lié à Constantine pendant un bon moment, je pense.
Et tu vois, avec le crossover, etc., ça m'étonnerait pas que dans la prochaine et dernière saison de Lucifer, t'es Ryan qui s'en sort.
Ah, ça me ferait peut-être regarder Lucifer. Bah, pour prendre
ils ont pas dit qu'il y avait encore une autre saison, donc ça pue.
Ouais, mais c'est vrai que.
Vu qu'on a vu qu'il avait, il l'est croisé dans le crossover, parce que ouais, ce serait mal qu'il le.
Non, je te dis, il y a largement moyen que ça le fasse. Du coup, quelqu'un veut jouer quelque chose, on termine là.
On peut terminer là.
Eh bien, c'est ici que nous concluons ce magnifique poster sur un film non moins magnifique, hein, Constantine le film. Et en espérant vous avoir bien diverti pendant cette quarantaine qui a prévu de durer un bon moment, hein. Contrairement à ce que dit Blanquer, le 4 mai, les facs ne réouvront pas. Hein. On ne va pas se mentir, il faut arrêter les conneries. Hein.
C'est simple, dès qu'il dit quelque chose, il faut penser à l'inverse.
Bah, on parle d'un gars qui a dit, qui à 13h disait, à 13h disait, les facs, les écoles ne fermeront pas. Et à 18h, Macron disait, on ferme. On ferme, ça suffit. On remballe, les gars. Tout doit disparaître. Donc voilà, en espérant que vous avez passé un bon moment et que vous avez diverti, on essaiera de refaire peut-être des podcasts si on a le temps de ce type-là. En attendant, protégez-vous, portez des masques, restez chez vous et attendez que ça passe. Ciao.
Salut.
Salut.